Quand l'automne arriva, le chat disparut. Puis des serpents commencèrent à se montrer. Il fallut à Kino quelques jours pour s'apercevoir que le chat n'était plus là. En effet, l'animal, qui n'avait pas de nom, venait dans le bar quand il en avait envie, et il était déjà arrivé qu'il s'absente durant un certain temps. Les chats sont des créatures qui tiennent à leur liberté, et celui-là en particulier semblait parfois aller se nourrir ailleurs. Aussi, Kino ne s'inquiétait-il pas spécialement s'il ne le voyait pas pendant 8 à 10 jours. Pourtant, au bout de 2 semaines d'absence, il commença à se faire du souci. Et s'il s'était fait écraser? Quand 3 semaines eurent passé, Kino sut d'instinct que le chat ne reviendrait plus. Il avait aimé ce chat, lequel de son côté s'était montré de plus en plus confiant. Kino l'avait nourri, lui avait offert un lieu où dormir, et l'avait laissé vivre sa vie en paix. En retour, l'animal lui avait témoigné une certaine affection, ou du moins ne s'était pas montré hostile. Avec le temps, il était devenu une sorte d'esprit protecteur du bar. Kino avait la très nette impression que tant que le chat serait là, endormi dans son coin, rien de mauvais ne pourrait arriver. Ce fut peu après sa disparition que les serpents se manifestèrent dans le jardin, devant la maison. Le premier que Kino remarqua était d'un brun terne, assez long. Kino s'apprêtait à ouvrir la porte d'entrée, un sac en papier plein de provisions dans les bras, quand il le vit se faufiler dans l'ombre du saule. Il était rare de voir des serpents en plein Tokyo. Il fut un peu surpris, mais pas inquiet outre mesure. Derrière le musée Nezu subsistait un grand jardin laissé plus ou moins à l'état naturel. Il n'était pas tellement étrange que des serpents y vivent. Mais 2 jours plus tard, quand il ouvrit la porte peu avant midi pour récupérer le journal, il vit un autre serpent, à peu près au même endroit. Celui-là était d'une teinte bleutée, plus petit que le précédent, et semblait quelque peu visqueux. Lorsque le serpent s'aperçut de la présence de Kino, il s'arrêta, releva légèrement la tête et le regarda droit dans les yeux, ou du moins parut le regarder. Kino hésita, ne sachant que faire. Le serpent laissa lentement retomber sa tête et se fondit dans l'ombre. Cette vision perturba Kino. Le serpent avait eu l'air de le connaître. Kino vit le troisième serpent 3 jours plus tard, au même endroit, toujours dans l'ombre du saule. Il était noir et bien plus court que les 2 précédents. Kino n'y connaissait rien en serpent, mais des 3, celui-ci parut le plus dangereux. Peut-être était-il venimeux? Il n'en était cependant pas certain. Il ne l'avait aperçu que l'espace d'un bref instant. À peine avait-il senti la présence de l'homme qu'il s'était glissé dans les herbes et évanoui. 3 serpents en une semaine, c'était trop. Il se passait quelque chose de bizarre. Kino téléphona à sa tante Izu. Après lui avoir donné quelques nouvelles, il lui demanda si elle avait déjà vu des serpents dans son jardin d'Aoyama. « Des serpents ?» répéta sa tante étonnée. « Des vrais, tu veux dire ?» Kino lui raconta comment il avait aperçu 3 serpents dans le jardin. « J'ai habité longtemps là-bas, mais je ne me souviens pas en avoir vu, » lui dit sa tante. « Donc cette apparition de 3 serpents en une semaine, ce n'est pas normal, n'est-ce pas ?»« Non, à mon avis, pas du tout. » Est-ce que ce ne serait pas le signe qu'il va y avoir un gros tremblement de terre ou quelque chose dans ce genre? Les animaux sentent que ce type de catastrophe va se produire, et alors ont des comportements étranges. Si c'était vrai, je devrais peut-être faire des provisions supplémentaires, dit Kino. Oui, c'est une bonne idée, je pense. Il n'est pas impossible que Tokyo connaisse un grand tremblement de terre un de ces jours. Mais les serpents sont-ils sensibles au séisme? Sa tante lui répondit qu'elle l'ignorait. Et Kino, bien entendu, n'en savait pas davantage sur la question. « Mais, reprit-elle, les serpents sont des créatures intelligentes. Dans la mythologie ancienne, leur rôle est souvent de guider les humains. C'est curieux, mais on retrouve cette fonction attribuée aux serpents dans les légendes du monde entier. Seulement, on ne sait jamais si c'est dans la bonne ou dans la mauvaise direction que le serpent vous entraîne. Dans la plupart des cas, il y a un peu des deux. Ils sont ambivalents, dit Kino. Oui, les serpents sont par nature des êtres ambivalents. Une de ces légendes raconte que le plus grand et le plus intelligent d'entre eux, pour ne pas être tué, avait caché son cœur à l'extérieur de lui-même. Si on voulait le tuer, il fallait aller chez lui en son absence, dénicher sa cachette et fendre son cœur en deux. Ce n'était pas facile. Kino fut admiratif du savoir de sa tante. L'autre jour, sur la NHK, j'ai vu une émission qui comparait toutes sortes de légendes du monde, expliqua-t-elle. Un professeur d'université a raconté cette histoire sur les serpents. La télé, ça peut être vraiment utile pour apprendre des tas de choses, je t'assure. Pendant ton temps libre, toi aussi, tu devrais la regarder davantage. Sa conversation avec sa tante lui confirmait en tout cas que le fait d'avoir vu trois serpents en l'espace d'une semaine était clairement anormal. Il fermait le bar à minuit, verrouillait la porte d'entrée, montait à l'étage. Après avoir pris un bain et lu un moment, il éteignait sa lampe peu avant 2 heures et s'apprêtait à dormir. C'est alors qu'il avait la sensation d'être entouré de serpents. Ils étaient là, innombrables, cernant la maison. Il ressentait le mystère qui émanait d'eux. Au milieu de la nuit, les environs immédiats étaient tout à fait silencieux. Hormis de temps à autre la sirène d'une ambulance, on n'entendait pas le moindre bruit. Au point qu'il percevait leurs glissements, leurs ondulations. Il boucha l'entrée de la chatière avec une planche afin de les empêcher de pénétrer dans la maison. Les serpents ne semblaient pas vouloir s'en prendre à Kino, du moins pour l'instant. Ces êtres ambivalents se contentaient d'encercler silencieusement la petite maison. Peut-être était-ce lié à la disparition du chat gris. La femme aux cicatrices non plus n'était pas revenue depuis un moment. Kino redoutait qu'elle ne réapparaisse dans son bar, seule, un jour de pluie. Mais en même temps, il le souhaitait, au tréfonds de son cœur. Ce qui, à coup sûr, était également quelque chose d'ambivalent. Un soir, peu avant 22 heures, Kamita entra dans le bar. Il commanda une bière, puis il but un double scotch et entre-temps mangea du chou farci. Il était tout à fait inhabituel qu'il vienne aussi tard et reste aussi longtemps. De temps à autre, il levait la tête de son livre et fixait le mur. Il paraissait absorbé dans ses pensées. Au moment de la fermeture, il était le dernier client. « Monsieur Kino, commença-t-il d'une voix cérémonieuse après avoir réglé son addition. « Je regrette vraiment qu'on en arrive là. »« Qu'on en arrive là ?» répéta Kino. « Que vous deviez fermer votre bar, en tout cas temporairement. » Muet, Kino regarda Kamita. « Fermer son bar ?» Kamita promena son regard dans le bar désert, puis ses yeux s'arrêtèrent sur Kino. « J'ai l'impression que vous n'avez pas tout à fait saisi ce que je vous ai dit. »« Non, en effet. »« J'aimais beaucoup cet endroit, » dit alors Kamita, comme s'il lui faisait une confidence. « C'était tranquille, et je pouvais lire mes livres. »« J'aimais aussi la musique que vous mettiez. » J'étais vraiment heureux que ce bar existe là, dans ce lieu. Malheureusement, il y a ici beaucoup de choses qui manquent. Qui manquent ? Kino n'avait pas la moindre idée de ce que ces mots signifiaient concrètement. Il vit en pensée une tasse à thé un peu ébréchée sur le bord. Le chagrin ne reviendra plus, dit Kamita sans répondre à sa question. En tout cas, pas pour le moment. « Parce qu'il manque des choses ici ?» Kamita ne lui répondit pas. Comme celui-ci venait de le faire, Kino balaya du regard l'ensemble du bar avec beaucoup d'attention, mais il n'y décela rien d'inhabituel. Tout au plus eut-il le sentiment que l'espace était plus vide que de coutume, que sa vitalité et ses couleurs l'avaient déserté. Une fois que le bar était fermé, il donnait certes une impression de vide, mais ce jour-là, il était plus vide encore. Monsieur Kino, vous n'êtes pas homme à mal agir volontairement, je le sais très bien. Pourtant, dans notre monde, ne pas dévier du droit chemin n'est parfois pas suffisant. On peut aussi utiliser ces vides comme une sorte d'échappatoire. Vous comprenez le sens de mes paroles ? Kino avoua qu'il ne comprenait pas. Réfléchissez-y bien, dit Kamita en le regardant droit dans les yeux. C'est une question importante qui nécessite une réflexion approfondie. Et il n'est sûrement pas facile d'y apporter une réponse. Vous me dites donc que de gros problèmes me guettent, non pas parce que j'aurais fait quelque chose de mal, mais parce que je n'aurais pas fait ce qu'il aurait fallu. Et ces problèmes seraient en relation avec ce bar ou avec moi, c'est bien ça ? Kamita hocha la tête. À strictement parler, oui, sans doute. Mais vous n'êtes pas l'unique responsable, monsieur Kino. J'aurais dû moi aussi m'en apercevoir bien plus tôt. Il y a eu de l'inattention de mon côté également. Mais je ne suis pas le seul à trouver ce lieu agréable. Bien d'autres, c'est évident, s'y sentent à l'aise. Que dois-je donc faire maintenant ? Demanda Kino. Kamita resta silencieux et enfonça ses mains dans les poches de son imperméable. Fermez le bar pendant un certain temps et partez loin, dit-il enfin. Pour le moment, vous ne pouvez rien faire d'autre. Si vous connaissiez un bon prêtre, il pourrait réciter des sutras et, grâce à des amulettes, mettre la maison et ce qui l'entoure sous protection. Mais de nos jours, on ne trouve pas facilement ce genre d'homme. Il est donc préférable que vous disparaissiez avant les prochaines grandes pluies. Excusez-moi, mais avez-vous assez d'argent pour un long voyage ? Tout dépend de sa durée, mais je peux tenir quelque temps. Très bien. Et ce qui arrivera ensuite, vous y penserez le moment venu. Qui êtes-vous à la fin ? Juste un homme qui s'appelle Kamita. Camille, Dieu, Ta, rizière. Ça s'écrit comme Kanda, mais ça se prononce Kamita. J'habite dans le coin depuis très longtemps. Kino décida de se lancer. Monsieur Kamita, j'ai une question. Avez-vous déjà vu des serpents par ici ? Kamita ne répondit pas. Bon. Vous partez donc très loin et vous ne restez jamais longtemps au même endroit. Ah, et puis, tous les lundis et les jeudis, vous écrivez une carte postale. Je saurai ainsi que tout va bien. Une carte postale ? Oui. Peu importe ce qu'elle représente. Et à qui devrais-je l'envoyer ? À votre tante, à Izu. N'écrivez dessus ni votre nom ni aucun message. Juste l'adresse de votre tante. C'est très important, alors surtout ne l'oubliez pas. Stupéfait, Kino regarda Kamita. Vous connaissez ma tante ? Oh oui, très bien. À vrai dire, c'est elle qui m'a chargé de veiller sur vous, pour qu'il ne vous arrive rien. Mais apparemment, je n'ai pas tout à fait réussi ma mission. Qui était donc cet homme ? Kamita ne semblait cependant pas désireux de le renseigner. Monsieur Kino, quand je saurai que vous pourrez revenir ici sans problème, je vous le ferai savoir. Jusque-là, restez éloigné de ce lieu. Vous avez bien compris ? Cette nuit-là, Kino prépara son bagage. Il est préférable que vous disparaissiez avant les prochaines grandes pluies. Le conseil avait été soudain. Sa logique lui échappait. Mais Kino avait confiance dans ce que disait Kamita. L'affaire était tout à fait invraisemblable, mais curieusement, il n'éprouvait pas de doute. Les paroles de Kamita avaient un étrange pouvoir de persuasion. Elles dépassaient la logique. Kino entassa des vêtements et des affaires de toilette dans un sac assez volumineux, celui dont il se servait autrefois lors de ses tournées. Il savait exactement ce dont il avait besoin pour un long voyage, et ce qui était inutile. Lorsque le jour se leva, il accrocha une pancarte sur la porte d'entrée. Le bar est fermé provisoirement. Loin, avait dit Kamita. Concrètement, Kino ne savait pas où situer ce loin. Devrait-il aller vers le nord ou vers le sud ? Il décida de reprendre la route qu'il connaissait bien, du temps où il plaçait les chaussures de course. Il monta dans un bus express, direction Takamatsu. Il voyagerait d'abord en Shikoku, puis pousserait jusqu'à Kyōchū. Il prit une chambre dans un business hotel, à côté de la gare de Takamatsu, où il resta 3 jours. Il se promena sans but dans les rues de la ville, vit quelques films. Les cinémas étaient quasiment vides durant la journée, et les films sans aucun intérêt. Le soir venu, il retournait à l'hôtel, allumait la télévision. Il regardait des émissions, selon les conseils de sa tante, sans pour autant en retirer d'informations utiles. Le deuxième jour à Takamatsu étant un jeudi, il acheta une carte postale dans une supérette, la timbra et l'envoya à sa tante. Il suivit les consignes de Kamita, ne notant que le nom et l'adresse de cette dernière. Le troisième jour, il eut brusquement l'idée d'aller voir une prostituée. Il obtint son numéro de téléphone grâce à un chauffeur de taxi. La jeune femme avait dans les 20 ans, une silhouette fine. Mais le sexe avec elle, du début à la fin, se révéla morne et insipide. À peine plus que l'assouvissement du désir, mais pas vraiment. Ensuite, il eut encore plus soif. Réfléchissez-y bien, lui avait dit Kamita. C'est une question importante qui nécessite une réflexion approfondie. Kino, cependant, avait beau réfléchir, il ne comprenait pas où se situait le problème.